des quatre chiens. C'est sûr qu'il y en manquait deux, là. On était bien désappointés. Il manquait deux de nos quatre chiens de la famille. Mais il y en avait au moins deux. Et c'est bon d'être ensemble. On peut célébrer notre histoire, nos racines, nos le fait que Michael aime beaucoup Monopoly et que les enfants ont écouté Swan Lake puis nos Walt Disney de notre jeunesse. On célébrait nos racines. On partageait nos présents, nos visions aussi d'avenir, hein, par l'affirmation l'un de l'autre, par la critique aussi. J'allais même dire quelquefois même par la confrontation. Mais on était ensemble. Et il en résulte un sentiment d'identité, un sentiment d'appartenance. À travers la famille, ma vie trouve un sens, trouve solidarité, trouve sécurité. Et ce matin, on retourne dans l'épître aux Éphésiens. C'est le fun de voir notre petite gang. Et ce matin, on retourne dans l'épître aux Éphésiens. On a vu dans Éphésiens au chapitre 1 les bénédictions célestes que Dieu le Père avait déversées sur nous par son Fils Jésus. On a vu par la suite la prière de Paul pour que nous puissions nous approprier ces possessions en Christ et qu'on puisse célébrer après ça la gloire de Dieu. Ça, c'était le chapitre 1 de Éphésiens. Nous arrivons maintenant dans le chapitre 2. On a eu un premier message sur le chapitre 2. Le chapitre 2 nous mentionne l'infinie grandeur de la puissance de Dieu et l'infinie grandeur de sa grâce pour nous. On avait vu grâce infinie de notre Dieu. Cette grâce infinie qui s'est manifestée parmi les païens comme parmi les juifs. Et dans les 10 premiers versets du chapitre 2, on a vu qu'on soit juif, qu'on soit païen, l'infinie grâce de Dieu s'est manifestée sur nous de façon personnelle. Personnellement, chaque croyant naît de nouveau. Et il le fait passer de la mort spirituelle à la vie d'un enfant de Dieu. Alors, j'aurais pu vous montrer des petites photos de Jacob aussi. Tu sais, il est là, mais j'aurais pu vous en montrer juste une photo de chacune des personnes. Et ça aurait été intéressant parce que Jacob, maintenant, il fait partie de notre famille comme individu. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez reçu personnellement le Seigneur Jésus, vous pouvez dire, j'étais perdu et il m'a sauvé. Et qu'on est content de ça. Êtes-vous content de ça? Oui, il m'a sauvé personnellement. Mais ce matin, on va regarder dans chapitre 2, les versets 11 à 22, une deuxième infinie grandeur de sa grâce et de sa puissance parmi nous, c'est que collectivement, il a fait de nous sa famille, la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, il a sauvé des gens différents afin qu'il manifeste l'amour, afin qu'il manifeste l'harmonie qui caractérise Dieu lui-même. Alors, à travers l'œuvre de Jésus à la croix et à travers la nouvelle naissance, Québécois, Canadiens, Africains, Européens, païens ou Juifs, nous sommes passés d'une religion à une relation personnelle avec Jésus et à une communion de croyants qui forme l'Église du Christ. Et chacun d'entre nous, ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir cette certitude dans notre cœur et cette joie dans notre cœur de dire, j'étais orphelin et Dieu m'a donné une famille. Qu'est-ce que j'expérimente de la communion dans la famille de Dieu? Je suis bien conscient que comme Ghislain mentionnait, on peut dire, Dieu m'aime, qu'est-ce que ça change dans ma vie? On peut dire plein de choses de façon individuelle. Mais qu'est-ce que j'expérimente de la communion dans la famille de Dieu, puisque c'est le deuxième grand but de la puissance de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce que j'expérimente des célébrations, des partages? Est-ce que j'expérimente des sentiments d'appartenance avec les croyants? Est-ce que j'expérimente un sens de solidarité et de sécurité dans l'Église? Et puisqu'on se prépare à la table du Seigneur, j'aimerais qu'on considère ce matin cette communion de famille à laquelle Jésus nous appelle. Et j'aimerais pour cela qu'on lise l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Et on va tourner nos regards vers le texte plutôt que vers la photo maintenant. J'aurais aimé terminer avec une belle photo de la famille de Dieu à Beauport. Peut-être un jour, on en trouvera une, puis on mettra ça. Ça, c'est ma famille à moi, mais il y a une autre famille ici, la famille de Dieu à Beauport. Et c'est ce que l'on va regarder ce matin, la notion d'Église. Prions Dieu quelques instants. Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi, on ouvre ta parole. Et j'aimerais te prier encore ce matin que ta parole parle à nos cœurs. Qu'elle nous montre, Seigneur Dieu, cette infinie grandeur de ta richesse, des privilèges que nous avons. Pas nécessairement d'avoir été orphelin, mais d'être devenu participant de la famille de Dieu. Et Seigneur, donne-nous à ce moment-là de nous encourager à développer ce sentiment d'appartenance, cette sécurité, ce sens de communauté, Seigneur, pour ta gloire. Et je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cister en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Un texte merveilleux. Il nous dit, autrefois païen, voilà ce que vous étiez. Mais maintenant, en Jésus-Christ, voici ce que vous êtes devenu. Et ainsi donc, à cause de cela, voici ce que je m'attends de vous. Voici ce que Dieu vous appelle à être et à faire. Qu'étions-nous sans Christ? Qu'est-ce qu'on était avant de connaître Christ? Le texte nous dit qu'on était des incirconcis. Des incirconcis de corps et des incirconcis de cœur. Par ceux qu'on appelle circoncis, par les Juifs. Par les circoncis qui le sont de corps puis que Dieu espérait qu'ils le soient de cœur. Mais on était dans le passé des personnes qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu dans la chair. Dieu, dans les temps passés, s'était sélectionné une nation à travers laquelle il allait se révéler, il allait se manifester et qu'il allait utiliser, puis on ne faisait pas partie de cette gang-là. On était des incirconcis, on ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et parce qu'on ne faisait pas partie du peuple de Dieu, pour les Juifs, on était des méprisés. On était des sales, on était des méchants qui n'avaient aucune marque de Dieu dans leur vie. On était des païens qui ne faisaient pas partie de l'alliance que l'Éternel avait faite avec son peuple et dont la circoncision était le signe. On était des
païens, les Juifs parlaient des non-Juifs, des incirconcis, comme des chiens. On était comme ça avant. Quand les Juifs disaient des païens, vous êtes des incirconcis. Ils ne faisaient pas juste une déclaration sur leur condition physique, là. Ils faisaient une déclaration de mépris sur ceux qui n'avaient pas de lien avec Dieu. On était des incirconcis de corps et de cœur. On était, le texte dit, des étrangers face au peuple de Dieu. On était, le texte dit, sans droit d'accès à la communauté d'Israël. Il dit, souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là privés du droit de cité en Israël, que vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. On était des étrangers face au peuple de Dieu. On n'avait pas d'accès à la communauté d'Israël. On n'avait pas aucune part aux promesses de Dieu. Devant Dieu, il y avait pour nous païens un sentiment d'orphelin, d'aliénation. Un sentiment qui nous faisait dire, t'as pas d'affaires ici. On était comme ça devant Dieu. On était étrangers, privés du droit de cité. Ce même sentiment de rejet que les Juifs parlent, que les Juifs subissent aujourd'hui, et qu'ils ont connu depuis 20 siècles, à ne pas avoir de pays, à être rejetés, de dire, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas d'affaires ici. Et si vous suivez les nouvelles encore avec Israël dans son pays, puis les peuples autour, ils disent la même chose. T'as pas d'affaires ici, va-t'en. Ça, c'était notre situation, le sentiment de rejet. Je dirais que c'est le même sentiment d'égarement. On a beaucoup d'immigrants ici à l'Église. Et nos immigrants, quand ils viennent ici, ils ont un premier sentiment d'égarement. Parce qu'ils ont quitté un sentiment d'appartenance, un pays d'origine, et ils viennent ici et ils ne fitent pas tout de suite comme il faut. Ils ont une culture différente, ils ont une couleur différente, souvent ils ont une manière d'agir différente, et ils se sentent différents. Ils ne comprennent pas toujours très bien. Ils ont un sentiment de... Je me trompe-tu quand je dis ça? Il y a un sentiment d'égarement. Et savez-vous quoi? Des fois, ils ont l'impression, même que nous, les croyants évangéliques blancs, on dit « qu'est-ce que tu fais ici? » De la même manière que les Juifs, ils se font bousculer puis ils disent « qu'est-ce que tu fais ici? » Mais nous, on était comme ça devant Dieu. On était étrangers. On n'avait pas de place, on n'avait pas de droit de cité en Israël. Et la Bible dit on était sans Christ, on était sans espérance. On était sans Dieu dans le monde. On n'avait aucune espérance pour un rédempteur pour nos péchés. Malgré le fait qu'on puisse avoir plusieurs philosophies païennes et qu'on ait différentes divinités, on était sans la réalité du seul vrai Dieu dans notre vie. Galates 4:8, il dit « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas dans leur nature. » On était sans communion avec Dieu dans le présent. On était sans espérance éternelle dans le futur. On était éloigné de Dieu, éloigné d'Israël, son peuple, éloigné du Christ, éloigné du Sauveur du monde. Vous rappelez-vous de ça? Qu'à un moment donné, vous étiez perdu, vous étiez éloigné, vous n'avez rien à faire avec Dieu. Verset 13 de Éphésiens 2. Mais maintenant. Voilà ce que vous étiez. Souvenez-vous de ce que vous étiez avant, mais maintenant c'est différent. Vous êtes devenu quelque chose de différent en Jésus-Christ. Maintenant, le souvenir de notre passé, de ce que Dieu a fait pour nous, ça devrait nous rendre maintenant plein de gratitude pour les privilèges dont il nous a fait part, de l'héritage qu'on a hérité en Christ. On devrait être plus conscient de ce que nous avons reçu pour être capable de marcher selon ce que Dieu nous attend. Il nous dit, mais maintenant, à partir du verset 13, qu'est-ce qui nous est arrivé maintenant? Maintenant, on a été rapprochés par le sang de Christ. Verset 13. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ a rapproché le peuple de Dieu de l'Ancien Testament avec les païens, nous les païens, et nous a rapprochés à travers le sacrifice de Jésus. le sacrifice de Jésus à la croix, il a apporté le pardon pour les péchés d'Israël qui étaient proches. Il y avait un système sacrificiel dans l'Ancien Testament qui était l'ombre de ce que Jésus allait venir. Il était proche. Et le sang de Jésus-Christ a rapproché les Juifs. Et il nous a aussi rapprochés des Juifs, du peuple de Dieu et de Dieu lui-même. On a été rapprochés par le sang de Christ. On a eu le pardon de nos péchés, nous païens, nous qui étions loin. Et aujourd'hui, Jésus offre le pardon des péchés. Il offre de sauver parfaitement quiconque s'approche de Dieu par lui. Et c'est ouvert à tous maintenant. Pas juste aux Juifs, mais c'est ouvert à toutes les nations de la terre. Nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Christ, la Bible a dit, a souffert une fois pour toutes. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Si vous étiez dans la catégorie des injustes, Christ est mort pour vous afin de vous amener à Dieu. Nous avons été rapprochés de Dieu et des Juifs et du peuple de l'Ancien Testament par le sang de Christ. Et il nous a dit, non seulement on a été rapprochés, mais Dieu a créé avec les deux, avec le peuple de l'Ancien Testament de Dieu et les croyants du Nouveau Testament, il a créé un seul être nouveau. Il a créé une union entre les deux. Il a créé quelque chose de nouveau, verset 15, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en Christ. Par le sacrifice de Jésus, Jésus a brisé toutes les barrières qui pouvaient séparer les Juifs et les païens en les incorporant en lui, en Jésus-Christ, en les incorporant dans sa même personne pour faire quelque chose de tout à fait nouveau avec eux, une nouvelle humanité. Un homme nouveau que l'on appelle l'Église. Païens, juifs, africains, européens, orientaux, Dieu les a toutes rapprochés par le sang de Christ et pour faire avec eux une nouvelle humanité, des chrétiens. Peu importe leur origine, peu importe leur culture, peu importe leur sexe. Le chrétien appartient maintenant à une nouvelle famille. Peu importe le rang social, Galates chapitre 3, verset 28 nous dit, « Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Dieu, Jésus-Christ, par la croix du calvaire, a créé une nouvelle humanité. Et dans l'Église, les païens qui sont sauvés sont incorporés au peuple de Dieu. Et ils profitent avec eux de toutes les promesses du salut qui leur étaient adressées.